Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'industrialisation du secteur agricole en République démocratique du Congo. Eh bien, l'industrialisation est un atout majeur pour le développement économique du pays. Alors, la RDC a un grand potentiel agricole avec ses 80 millions de terres arables, selon les experts. Cependant, la plupart des produits agricoles sont cultivés avec des techniques rudimentaires. C'est le cas, par exemple, du manioc, le maïs, le riz, banane, plantain, haricots, arachides, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour industrialiser le secteur agricole afin d'augmenter considérablement la production? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Madame Kétia Olangui. Elle est entrepreneur et fondatrice de la, coordonnatrice de la fondation NEMA. Madame Kétia, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Alors, nous parlons de l'industrialisation de l'agriculture en RDC. Pourquoi est-il important aujourd'hui de passer à l'industrialisation de ce secteur?
Bonjour Monsieur Jody, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu à me suivre. Hein. Mm-hmm. Ça fait de cela, je crois, ça va faire 5 ans aujourd'hui. J'ai initié un forum panafricain des femmes entrepreneurs. Mm-hmm. Ce forum a pour but de réunir toutes les femmes entrepreneurs sur une table de décision, afin de voir quelle direction nous pouvons prendre ensemble pour justement relever l'économie de notre beau et grand continent, qui est le continent africain. Mmh. Et vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait mieux, quels sont les challenges. Parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs forums qui se tiennent, il y a beaucoup de conférences, il y a des ateliers, des formations. Mais on ne sent pas cet impact social dans la société, on ne sent pas un changement. Il n'y a pas réduction de chômage. Si vous regardez les taux de chômage, c'est toujours très, très élevé. Voilà, c'est parce que en fait, on ne sent pas l'impact. Alors pourquoi? Parce que chacune d'entre nous, nous allons de façon individuelle. Alors, je pense que la dernière fois qu'on avait eu interview, je vous avais dit en 2021, à la 3e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs que j'avais organisé au Haut-Katanga, on s'était dit, ok, faisons les choses différemment. C'est vrai qu'on s'est réunis, mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons pour changer?
Quel est l'impact?
Quel est l'impact? On ne sent pas. Oui, entrepreneur, oui, c'est bien beau. On ouvre un petit une petite boutique, on ouvre un petit restaurant. Mais quel est cet impact? Est-ce que vraiment nous changeons la vie des Congolais? C'est comme ça qu'en 2021, on s'était dit, on va assister avec cette histoire de moi. On va maintenant mettons-nous ensemble. Nous les Congolaises, nous les Congolais, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour réellement changer la situation de notre pays? Mmh. Et c'est comme ça que depuis 2021, nous nous sommes lancés dans le secteur agricole. Nous avons pu viser le secteur agricole, c'est comme vous aviez dit, nous avons 80 millions de terres arables. Mais jusqu'aujourd'hui, en RDC, nous continuons à importer des produits de première nécessité. Mon frère, c'est vraiment inacceptable. En fait, des fois, quand je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Oui. Est-ce que c'est le manque de volonté politique? Est-ce que c'est nous-mêmes, les entrepreneurs, qui n'avons pas une vision claire par rapport à notre nation?
Mais c'est le manque d'outils.
Voilà, ou le manque d'outils, ou le financement. Mm-hmm. On s'est dit, ok, on va pas d'abord aller chercher, lever des fonds ailleurs. Nous, d'abord, les femmes entrepreneurs, combien nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons, avec les fonds que nous avons? Et on s'est décidé de nous mettre ensemble. On a décidé de créer une société agroalimentaire avec le projet Tuli mais pas Moja. Et ce projet a pour but d'industrialiser les secteurs agricoles, non pas dans les grandes villes. On s'est décidé de faire autrement, de développer les villages et les territoires. Justement, ça va avec la vision du chef de l'État sur le développement des 145 territoires.
Mmh. Vous savez,
Tuli mais pas Moja, c'est cultivant ensemble.
Okay.
Voilà, c'est comme ça a été initié au Haut-Katanga, Lubumbashi. C'est en Swahili justement, Tuli mais pas Moja, cultivant ensemble, Tolona et Longo, Tosangana, Tosaleloko ensemble.
Okay.
C'est ça le but de ce projet. Ce projet a pour but d'industrialiser le secteur agricole dans les territoires et les villages. Et on a identifié un territoire pilote qui nous a permis de commencer justement ce projet. le territoire pilote est le territoire de Songololo. Comme c'est proche de la capitale, pour nous permettre de souvent aller faire des audits contrôlés. Oui. Et qu'est-ce que nous avions fait?
Dans le Congo central.
Voilà, dans le Congo central. Et qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions d'abord identifié les femmes agricultrices aux alentours de Songololo, donc dans les villages aux alentours de territoire de Songololo. Mmh. Et nous avions identifié 50 femmes. Et ces femmes-là, qu'est-ce que nous avions fait? Nous les avions outillées. Elles avaient déjà des champs, elles avaient déjà des plantations, mais nous les avions outillées, nous les avions formées et nous les avions structurées. Et nous, en les structurant, nous avons créé une coopérative.
Elles ont reçu également des formations.
Voilà, des formations, des fonds, et ce que vous voulez. Mmh. Voilà. Et nous les avions mises en coopérative. Et cette coopérative a signé un partenariat avec la fondation NEMA, ma fondation et ma structure, la structure Soprodé. En fait, comme je dis, Soprodé, c'est la Société Provinciale de Développement, mmh. qui est cette société qui a été créée par plusieurs femmes entrepreneurs pour développer le secteur agricole en RDC. Voilà. Mmh. Et on a signé ce partenariat-là. Et au niveau de Songololo, nous avions installé une petite usine de transformation. Parce qu'on n'avait pas eu assez de moyens pour installer la grande usine. Parce que la grande usine de sur la filière manioc, c'est plus ou moins 10 millions de dollars américains. Et comme on n'avait pas atteint ce montant-là, avec le peu que nous avions décidé de mettre en place au niveau de Songololo une petite usine de transformation. D'où les femmes agricultrices à la récolte, la société Soprodé, chapeauté par la fondation NEMA,
que achète les produits
mmh. voilà, et nous transformons sur place. Et aujourd'hui nous pouvons produire 16 tonnes de farine de manioc de première qualité, parce que je veille sur la qualité. J'ai engagé des ingénieurs justement pour veiller sur la qualité du produit, d'où nous enlevons la cyanure dans la cyanure nous enlevons la cyanure dans le process, en fait, hein, dans le process, mm-hmm. dans le process de transformation. Nous enlevons la cyanure, nous enlevons l'amidon et nous fournissons la farine, une farine de manioc de première qualité qui est consommée sur le marché congolais. Donc jusque là, nous Mais arrivons
ça
à produire.
Comment, c'est comment le nom du produit?
Toulimé Pamoja. La non, marque du produit, c'est Toulimé. Voilà. Okay. Toulimé Pamoja. Voilà. La farine Toulimé Pamoja. Voilà. Donc, si nous avons pu le faire avec les peu de moyens que nous avons, et c'est parce que nous nous sommes mis ensemble, nous avons décidé de commencer. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ans que nous produisons au niveau de Songololo. Mais le projet n'est pas seulement Songololo. Le projet, c'est tous les territoires, les villages. Nous voulons aller, mais pour réussir, c'est de le faire ensemble.
Et combien de femmes sont impliquées dans ce projet-là?
Jusque-là, nous avons 100 femmes mmh. qui ont souscrit, qui sont actionnaires dans ce projet. Mais le but aussi, c'est de frapper partout, hein, que le gouvernement congolais nous accompagne. Mais on n'a pas voulu d'abord aller vers le gouvernement congolais. On a d'abord voulu faire nous-mêmes, mm-hmm. concrétiser ce projet nous-mêmes. Et vu que là, nous sommes sur terrain, les produits sont vendus sur les marchés congolais, donc nous sommes maintenant, là, nous sommes crédibles aujourd'hui. Donc le gouvernement congolais peut nous accompagner, tout comme les banques peuvent nous accompagner.
Et quels sont le matériel de transformation que vous avez? C'est quoi, par exemple?
Donc, présentement, nous développons la filière manioc et maïs. Pour la filière manioc, nous avons la râpeuse, nous avons le séchoir, nous avons le moulin qui moule le manioc, oui. donc après avoir séché, voilà. Mmh. Nous avons toute cette ligne de production au oui. niveau de Songololo. Mais on n'arrive pas à
Parce
produire
manioc,
à grande échelle.
Il faut laisser d'abord dans l'eau pendant plusieurs
voilà,
jours.
Voilà, voilà. Mais nous sommes quand même, semi-industriel. Donc D'accord. c'est vrai qu'on épluche à la main, mais nous avons, nous le coupons avec la machine. Donc il y a la coupeuse, il y a le séchoir et il y a le moulin. Voilà. Et nous le faisons, ce n'est pas à grande échelle, hein. C'est juste, c'est comme je dis, c'est 16 tonnes par mois. Mais le projet à long terme, justement, c'est d'installer la grande usine de transformation. Et sur cette ligne de transformation, nous aurons, la valeur ajoutée. Nous aurons plusieurs valeurs ajoutées. Donc nous aurons la farine de manioc. Nous sommes en train d'étudier pour la transformation de la farine panifiable à base de manioc.
Et surtout qu'aujourd'hui, on voilà. en parle de plus en plus.
Voilà.
Fabriquer des pains avec le manioc.
Voilà. Farine panifiable. Toujours sur cette ligne de transformation. Mmh. Farine panifiable de manioc. L'amidon aussi. Parce que l'amidon, n'oublions pas que l'amidon est un produit très, très essentiel pour la fabrication des médicaments. Okay. Voilà. Et nous allons aussi
extraire l'amidon.
Oui, nous allons extraire l'amidon. D'accord. Voilà. Et aussi, il y a aussi un dérivé du manioc qui peut fabriquer la colle. que nous pouvons utiliser même pour les bois et pour les maçons, toutes ces personnes qui en auront besoin.
Ça s'appelle voilà. Comment?
La colle. Non, c'est un dérivé. Le dérivé. Ouais. On n'a pas encore le nom. D'accord. Mais dans cette ligne de transformation, avec les études des ingénieurs, nous avons pu extraire cette colle là. Voilà. Et toujours en ce qui concerne l'environnement, la protection de l'environnement, le déchet du manioc peut produire du biogaz. Et ce biogaz peut alimenter l'usine et les villages. Donc nous avons la solution au niveau de Songololo. Donc c'est pour dire qu'on a la capacité de produire à grande échelle si on a la volonté.
Donc c'est vraiment une chaîne des valeurs.
Voilà, une chaîne des valeurs.
Beaucoup de des dérivés voilà, du manioc qu'on peut exploiter.
Voilà, voilà.
Alors donc ça c'est une initiative des femmes qui se sont mises ensemble et puis ben voilà, vous avez tenté une expérience et ça marche. Et qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour une grande industrialisation du secteur agricole dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire?
La première des choses, c'est comme j'ai dit, c'est d'abord d'identifier qui sont les agriculteurs. Parce que vous savez, au Congo, nous sommes tellement éparpillés qu'on ne sait même pas qui produit quoi. Vous savez, par exemple, dans les pays développés,
on regroupe les gens,
c'est dans les filières. Et aujourd'hui, si j'ai besoin du manioc, je sais que je vais aller, par exemple, à Songololo, j'aurai. Mais au Congo, on est éparpillé. La première chose, c'est d'abord identifier qui sont les agriculteurs. Voilà. Et deuxièmement, après avoir identifié les agriculteurs, les former et les outiller. Parce que beaucoup d'agriculteurs sont là, mais ils ne sont pas formés, ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas de financement. Justement. Donc, les identifier, les former, les outiller. Et la quatrième étape, c'est de les accompagner, de financer ces agriculteurs. Ou soit, non seulement de les financer, mais installer des usines de transformation dans les territoires. Pourquoi j'ai dit territoires? Vous savez, aujourd'hui, s'il y a exode rural, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi dans les villages et les territoires. Mais si nous créons de l'emploi dans ces territoires et dans les villages, nous n'aurons plus cet exode rural. Donc, Kinshasa ne sera plus saturé. Donc, là, en fait, quand vous avez une idée ou vous voulez initier un projet en tant qu'entrepreneur, vous devez toujours cibler. Ça veut dire quand je dis cibler, vous devez voir, à part le fait que je vais gagner de l'argent moi-même, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte pour ma nation. Donc, ton projet doit, si je peux dire, être compatible avec l'accompagnement du développement de notre pays. Donc, qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur? Je crée de l'emploi, oui, mais à part l'emploi, qu'est-ce que je fais d'autre? C'est comme j'ai dit, moi je suis entrepreneur, mais on n'a pas visé les grandes villes, on a visé les territoires et les villages pour accompagner les agriculteurs locaux et aussi pour développer les territoires.
Enfin, d'éviter cet exode rural. Pour industrialiser l'agriculture, il faut des gros investissements, j'imagine.
Voilà. Voilà, c'est comme je dis, on a d'abord commencé. Parce que même les bailleurs de fonds ou les banques, ils viennent financer des gens qui ont déjà prouvé qu'ils sont capables.
Il y a le FPI aussi,
le
fonds de promotion.
Voilà. Alors, on n'a pas voulu aller directement faire une demande de crédit ou une demande d'accompagnement ou de financement. On a d'abord voulu commencer avec les moyens que nous avions. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes crédibles. Ce qui fait que nous sommes déjà en pourparler avec des bailleurs de fonds qui veulent financer le projet au niveau de la Belgique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et même ici en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a accepté de nous accompagner. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous aurons à justement industrialiser les secteurs agricoles.
Vous allez acheter d'autres équipements.
Voilà, d'autres équipements en installant les usines de transformation sur place dans les territoires.
Alors, à part Songololo, où est-ce que vous voulez encore aller installer ces usines-là?
Le deuxième territoire, c'est au Katanga, à Mukambo. Voilà. Là-bas, nous avons, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois qu'on a eu à passer dans votre émission. Nous avions pu avoir 3000 hectares au niveau de Mukambo. Mukambo, c'est à 5 minutes de la frontière avec la Zambie. Pourquoi j'ai choisi Mukambo? Vous savez, quand vous vous mettez sur la grande route, je pense que c'est la nationale numéro 1, il y a des camions des farines de maïs qui proviennent de la Zambie.
Ok.
Alors, moi, mon objectif, c'est d'arrêter ça. Pourquoi on doit tout le temps importer? Nous avons des terres. Nous pouvons produire chez nous, en République démocratique du Congo.
Au lieu de toujours consommer le maïs zambien.
Consommer le maïs zambien. Donc, vous savez, il y a même des usines en Zambie qui produisent seulement, spécialement pour les Congolais.
Donc, imaginez-vous. Ils ont un grand marché au Congo.
Ils produisent spécialement pour les Congolais. Oui. Mais nous, les Congolais, nous avons 80 millions de terres arables. Alors, nous avons identifié ce territoire-là. Nous avons déjà identifié 200 familles qui vont travailler pour nous. Et nous attendons juste le financement pour commencer ce projet au niveau de Mukambo.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Charles Etalbumbashi Platini de Mbanda, nous appelle de Mbandaka, et Joseph Delicacy. Nous parlons de l'industrialisation du secteur agricole en RDC. Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à la dame l'invité.
On vous écoute, bonjour. Charles.
De plus en plus, monsieur Jody, ce n'est que la théorie qui se développe par rapport à l'industrialisation du secteur agricole dans notre pays, mais on ne sait pas quand est-ce que la pratique sera de la partie. Nous assistons souvent à des théories telles que village agricole, Kanyamaka Sese, Bukangalonzo, aujourd'hui c'est l'industrialisation à Sololo ainsi qu'à Mukambo. Mais malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque pour arriver vraiment à la réussite de toute cette théorie-là. On ne sait pas.
Mais Charles, à Bukangalonzo, ça marche déjà, non? On voit les résultats, les maïs, les produits sur le marché.
Pour nous, les résultats...
Pardon, je parle pas de Bukangalonzo, pardon, excuse-moi, je parlais plutôt du projet de Kanyamaka Sese au Katanga.
Bon, pour nous qui sommes peuple, pour la population, monsieur Jody, lorsque la famine sera réussie dans notre pays, là nous allons maintenant applaudir que voilà, il y a maintenant une réussite totale. Si Kanyamaka c'est ce qui est tout près du Kassai par exemple, mais il y a aussi du maïs dans l'espace kassaïen, là nous nous rendons compte que tout ne semble pas marcher de ce côté-là, monsieur Jody. Et pour terminer, pourquoi le choix de Mukambo, par exemple, ici? Parce que Mukambo n'est pas un grenier agricole dans les Haut-Katanga. Il y a les vrais greniers agricoles, mais qu'est-ce qui justifie le choix de Mukambo? Songololo, quand même, nous pouvons comprendre, mais Mukambo, on ne sait pas. Et puis, c'est tout près de la Zambie. Ne voyez-vous pas que vous risquez de développer qu'est-ce le coin de la République au moment où il y a d'autres coins-là greniers de leur état, mais qui souffrent encore d'enclavement. Alors, il a fallu désenclaver aussi d'autres coins de la RDC.
Bien, merci Charles de Lumbashi. Platini, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Jody, bonjour, je salue Madame Levitt.
Quelle est votre question?
Voilà, merci beaucoup Jody. Je pense que la thématique du jour est louable, parce que je suis en Mbandaka, à l'Équateur, là il y a vraiment l'agricole. Et c'est partout dans les grands équateurs, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, hein, parce que on a eu déjà parlé de cette thématique, je sais qu'elle en est passée, parce que la relance du secteur agricole, c'est ça, mais je ne sais pas si ça devient le plus en plus théoriquement, ou je ne sais même pas comment je peux dire. Parce que je prends un exemple aujourd'hui. Je prends les cas comme les provinces du Sud ou Bangui, où il y a vraiment la grande agglomération du café. Mais là-bas, vous allez constater que le paysan qui se fait le travail sur le terrain n'arrive même pas à atteindre les gains des causes. Donc, il y a des travaux à faire, il y a des produits, mais la relance, le gouvernement ne fait même pas allusion autour de ça. Et si je descends même, parce que d'ici là, il y a le mois passé, j'étais à l'Issala, où à l'époque, il y avait une province qui produit vraiment des riz à tout moment et à tout moment, donc, trois fois par année. Donc, mois de mars, mois de juillet et aussi mois de septembre. Et maintenant, là, tout est bloqué, je dis. Tout est bloqué parce que il n'y a pas de bon accompagnement. Et aussi dans la ville de Mbandaka, quand on est ici comme nous sommes.
Bien, alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour industrialiser le secteur agricole?
Oui, ce qui est important est que je sais qu'il y a tout un ministère de l'agriculture. Et aussi, le gouvernement est là, mis en place. Le gouvernement est là pour accompagner. Ce que moi je vais proposer, je sais que madame est là. Madame est là, elle est spécialiste en la matière. Elle est là aussi avec vous. Ce qui est important est que le gouvernement, d'abord, pousse à accompagner les agriculteurs, la personne qui fait les travaux sur le terrain, parce qu'il y a des produits, mais il y a ça qu'on appelle, il y a manque d'accompagnement, je vous dis.
D'accord. Et donc, le gouvernement devrait accompagner tous ces agriculteurs, oui. Les aider, n'est-ce pas, jusqu'à industrialiser les secteurs. Merci d'avoir appelé Joseph, vous êtes à Likasi et John Akindou. Bonjour Joseph.
Bonjour l'invité, bonjour à M. Jody Kassama.
Bonjour, quelle est votre question, Joseph?
Oui, je voulais intervenir à ce sujet qui est très pertinent à nos vies et nos populations. Maintenant, j'ai entendu fameux 245 territoires de développement tendus par tout notre gouvernement. Oh, je me suis écouté encore l'indication du secteur agricole. Maintenant, si je vois tous ces projets-là, finissent par Lubumbashi, Kinshasa, Bandaka et tous les cela. Maintenant, nous qui sommes dans le milieu rural, on ne voit jamais ce fameux programme qui ne touche pas aux 15 couches de population sociaux. Merci. Maintenant, moi aussi, je vous parle, je suis à Kapolo Egal, 8 mètres de route nationale. J'ai quelques hectares de manioc. Je n'ai rien vu. Maman ou papa qui cherche à industrialiser cette manioc-là, ou soit chercher le riverain pour aller le faire développer avec sa critique. Maintenant, pour nous, nous attendons cet projet, ça intéresse les hommes de ville. Mais celui qui est dans le milieu rural, on ne voit jamais cette efficacité de ces projets-là.
D'accord.
À cet point, j'ai deux questions. Est-ce que cet projet émane pour ceux qui sont dans les villes, nous qui sommes des milieux ruraux, on ne touche ça pas jamais, nous n'avons jamais été bénéficiés aucun nectar.
D'accord, je comprends. Est-ce que
avec bénéficiaires.
Vous voulez savoir si ce projet ne concerne que les centres urbains et pas les milieux ruraux. John, vous êtes à Kindu, bonjour.
Ah, ok.
John de Kindu, bonjour.
John. Bonjour, je dis bonjour à notre invité qui est sur le plateau.
John, nous parlons aujourd'hui de l'industrialisation du secteur agricole. Quelle est votre préoccupation?
Merci de m'accorder la parole pour m'associer à la réflexion sur l'industrialisation de l'agriculture. Je salue l'invité sur la radio Capi, je salue tout le staff de la radio Capi, je salue les fils et filles du Maniema et tout le monde qui suit la radio Capi en ce moment.
John, beaucoup de salutations.
Je voudrais exprimer mes regrets vu l'insécurité alimentaire sous l'emprise de laquelle le Maniema, en particulier la RDC, croupit. Mon inquiétude se justifie du fait que les Congolais ne savent pas où commencer pour que le reste aille comme sur les roulettes. Ceux qui nous gouvernent ne savent pas c'est quoi un besoin primaire, c'est quoi un besoin secondaire, c'est quoi un besoin tertiaire dans la série des besoins. Regardez, les tuyaux d'Assoufa de rêve mémoire étaient bien inspirés en cette matière en chantant « Avant de bien travailler, il faut manger ». Mais nos dirigeants pensent que on peut obtenir un bon résultat, même si on n'a pas mangé.
Oui, alors quelle est votre question, John? Quelle est votre question maintenant?
Dans une population où 40% d'enfants accusent un retard de croissance suite à la malnutrition, nos U17, nos U21 sont des échantillons de cette population. Vous voyez? Alors, dites-moi, je dis, comment peut-on espérer obtenir de bons résultats dans cette population?
C'est pourquoi,
en toute logique et selon toute vraisemblable, nos léopards locaux ne peuvent pas apporter grand-chose au pays.
Bon,
nos dirigeants songent à la victoire de Leopardo, quel joli rêve.
Oui, merci beaucoup.
Il faut commencer par l'industrialisation du secteur agricole à partir du secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Regardez,
merci, John.
Par exemple, on investit $100,000 à un boxeur pour qu'il aille battre une personne. Mais si on me donnait à moi, ingénieur agronome, 25,000 $, mais je vais nourrir plus de 50 ménages. Voyez ça, cher jeudi. Donc, il faut savoir par où commencer. Mais si vous commencez par l'agriculture, c'est là que vous pouvez espérer obtenir vous pouvez arriver à obtenir de grandes réalisations dans le pays.
Merci.
Je dis
merci.
Que je vous remercie. C'est ingénieur John Lukita qui vous a appelé depuis la ville de Kinshasa.
D'accord. Mmh. Merci beaucoup, ingénieur, et merci à tous les intervenants. Madame Kétia, vous avez la parole.
Ok. En tout cas, je suis très flattée. Je pense que c'est vraiment le sujet, si je peux dire, le sujet dont on doit parler pour notre pays. Vous savez, les priorités de notre pays, si je peux dire, les gouvernements doivent focaliser, savoir par où commencer. C'est comme ils ont dit, les priorités ne sont pas alignées.
Déterminées.
Moi, je pense qu'il faudra d'abord accompagner les agriculteurs. Mais la première
c'est
chose,
c'est la priorité des priorités.
C'est la priorité des priorités. La première des choses, qui sont ces agriculteurs? Moi, si aujourd'hui je suis ministre de l'Agriculture, la première chose à faire, c'est d'abord d'identifier qui sont ces agriculteurs. La première chose à faire, c'est d'abord de convoquer une réunion où je réunis tous les ministres provinciaux de l'agriculture de toute la République.
Pour recenser tous les agriculteurs.
Pour recenser d'abord les agriculteurs. Qui sont ces agriculteurs, même au fin fond du pays? Parce que la RDC, c'est pas Kinshasa. Mmh. Et je vais réitérer en disant, le projet Toulime n'est pas un projet des grandes villes. Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas Lubumbashi. Ce ne sont pas les grandes villes. Le projet Toulime, c'est justement d'industrialiser le secteur agricole, mais dans les villages et les territoires. Je ne parle pas des grandes villes, je parle des villages et territoires. Okay. Mais qui sont ces agriculteurs? Est-ce que nous avons un statistique des agriculteurs congolais? Même qui vit, je ne sais pas, dans un village au Congo, ou à Lubembe,
où
il n'y en a pas, on ne sait pas qui fait quoi.
Mais ils sont regroupés dans des coopératives, je crois.
Voilà. Moi, en tant que ministre de l'Agriculture, la première chose à faire, c'est d'abord d'identifier ces agriculteurs et convoquer une réunion à Kinshasa de tous les ministres provinciaux de l'Agriculture et faire ce travail-là de fond. Vous savez, le problème, c'est quoi, papa, je dis? On n'arrive pas à faire le travail de fond dans notre pays. On est trop superficiel. Et je pense que des fois, on ne se rend pas compte que nous ne rendons pas service aux générations qui viendront. Faisons un travail de fond. Quand tu es un ministre, fais un travail de fond. Tu n'es pas là pour montrer que tu as des voitures. Non! Fais un travail de fond.
Mais vous souvenez, à l'époque, on avait distribué des tracteurs
à travers le pays. On a distribué des tracteurs à qui? Qui fait quoi? Est-ce que c'est vraiment des agriculteurs? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui continuent à se plaindre? C'est parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Faites d'abord les statistiques des agriculteurs. Et ensuite, savoir comment les accompagner. C'est comme il dit, d'autres agriculteurs, c'est peut-être $25,000 dont il a besoin pour commencer. Mais moi, j'irai dans le sens où, au lieu de financer un agriculteur, c'est d'abord de faire une coopérative de tous les agriculteurs congolais, une coopérative de tous ceux qui sont dans la transformation. Et de les mettre ensemble selon les filières. Si c'est le manioc, on les met ensemble au manioc et on produit à grande échelle pour aussi l'exportation. Parce que vous savez, quand on parle de la zone de libre-échange, nous les Congos, on va exporter quoi? Nous, nous serons des victimes parce que nous allons importer. Qu'est-ce que le Congo va exporter? On produit quoi pour exporter? On produit combien?
Et on dit qu'à l'époque, on était les premiers producteurs de manioc,
voilà,
avant les Nigeria.
Voilà. Vous savez, aujourd'hui, d'autres pays africains travaillent ensemble. Ils travaillent en coopérative. C'est l'association des agriculteurs en filière manioc. En filière café, en filière sorgho,
maïs,
on vous met ensemble, voilà, ce sont des structures qu'il faut organiser en tant que ministre de l'Agriculture. Et ensuite, maintenant, savoir où mettre de l'argent. Où mettre cet argent-là? Comment les accompagner? Il faut qu'il y ait des audits. Après 6 mois, qu'est-ce que vous avez pu produire? Et le gouvernement se charge de la facilitation pour l'exportation. Donc c'est ça en tant que ministre de l'Agriculture. Un ministre de l'Agriculture, c'est ça son travail.
Mais avant d'exporter, il faut d'abord satisfaire le besoin.
C'est ça, je dis. Satisfaire le local. Besoin local et ensuite exporter. Parce qu'on a aussi besoin des devises. Justement, c'est ça. Donc c'est ça, je dis. Donc il faut organiser les choses. Et le gros problème, c'est que c'est l'accompagnement, c'est le financement. Mais n'est pas financé individuellement. C'est d'abord d'identifier, de les mettre ensemble, sinon des filières, et ensuite de les accompagner, de les financer et de les contrôler aussi. Parce qu'il faut aussi contrôler. J'ai donné, le gouvernement accompagne, mais après, où sont les productions? Est-ce que nous avons pu réduire l'insuffisance alimentaire dans notre pays? C'est tout ça qu'il faut faire en tant que ministre de l'Agriculture. Et je pense que c'est pour moi, en tout cas, bien que c'est difficile, mais si vous êtes, vous avez la volonté et vous êtes structuré et vous avez une très bonne équipe qui vous accompagne, vous pouvez le faire et vous pouvez réussir. Et je pense que c'est ça le plus grand problème dans notre pays.
Donc l'agriculture doit être la priorité des priorités. C'est les
pour moi, c'est la priorité des priorités. Voilà. Pour moi, c'est parce que ça va créer plusieurs emplois. Ça va créer de l'emploi. Et vous savez, avec le projet Toulime et Pamoja, le projet à long terme, non seulement il faut que les auditeurs sachent dire que nous produisons. Bien que ce n'est pas à grande échelle, le projet Touli, mais produit, nous produisons au niveau de Songololo.
La farine de manioc.
La farine de manioc de première qualité. Mmh. Et qui est consommée à Matadi et à Kinshasa. Et c'est produit par des Congolaises, des agricultrices congolaises. Ce n'est pas des étrangers qui le produisent.
Et c'est 16 tonnes, vous avez parlé de 16
tonnes. 16 tonnes par mois, par voilà, mois. Voilà. Et nous avons juste besoin de l'accompagnement du gouvernement pour pouvoir maintenant produire à grande échelle. Voilà.
Donc vous aurez besoin de financement.
Des financements, voilà.
Du FPI,
voilà.
Par exemple.
Voilà, du FPI ou des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers.
D'accord. Justin, vous êtes à Bounia, Maître Gaston à Kinshasa. Bonjour, Justin.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à la dame invitée, en tout cas.
On vous écoute.
Merci, monsieur Jody, en tout cas, pour ces sujets. Et aussi, c'est très important. Lorsque nous voyons le pays développé, c'est l'agriculture qui développe le pays dans ce monde. Mais quand nous voyons de ce qui se passe à travers les pays, dans notre pays ici, la RDC, quand la politique dit les pays solution, mais moi je vois le pays ici, la RDC, c'est un pays problème parce que nous avons des politiciens et des dirigeants qui sont assoiffés d'argent.
Parce que mais Justin, pourquoi on condamne toujours les dirigeants et pourtant le gouvernement a dit maintenant le sol, l'agriculture doit prendre la revanche sur les mines. Avant on était focalisé sur les mines, maintenant c'est l'agriculture qui devient la priorité.
Oui monsieur, aujourd'hui, pour industrialiser l'agriculture, voyez Bukangalonzo, mais la parc agro-industrielle de Bukangalonzo. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de tournement? Donc ce qui nous énerve, c'est le détournement. C'est ce qui se fait. Est-ce qu'un petit peuple, une simple population, est-ce qu'il peut avoir une capacité d'industrialiser l'agriculture?
C'est ça.
Non, la population, comme vous voyez ici à Bounia, dans la brousse, les gens, ceux qui font l'agriculture, monsieur aujourd'hui, ce n'est qu'un travail avec la houe et la machette.
Oui.
Mais vous demandez à ces petits peuples-là d'aller industrialiser. Mais c'est le gouvernement qui est là pour industrialiser soit l'agriculture. Mais lorsqu'on peut financer, même si madame est en train de suggérer sur les financements, mais les financements, on peut toujours donner, on peut toujours disponibiliser les financements. Mais dans notre pays, nous sommes mal étationnés, monsieur, aujourd'hui. On peut financer l'agriculture, mais il y aura un détournement. On peut faire ceci. Il y a toujours des malhonnêtetés dans la tête des Congolais. C'est ce que nous fustigeons.
Mais il y a aussi des gens honnêtes au Congo. Il n'y a pas que des gens malhonnêtes, Justin.
Non, les gens honnêtes sont à côté au bout des doigts. Mais, bon, je ne sais pas. Même la politique ici, même la politique, tout est verrouillé.
Alors, quelles sont vos propositions? D'après vous, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour industrialiser l'agriculture?
Très bien, très bien. La première chose, il faut que nos dirigeants prennent conscience. Parce que le développement de ce pays, monsieur, aujourd'hui, ça ne tombera pas du ciel. C'est à l'époque de Noé que la manne avait tombé. Mais c'est à cette époque ici, c'est la conscience de soi, que nos autorités reviennent à la conscience. Ça, c'est un. D'aider. Nous pouvons voir aussi le pays, par exemple la Tanzanie. Est-ce que le développement des Tanzanie, même le président, le feu président Magufuli, il disait quoi? Le développement des Tanzanie, ça ne viendra pas d'ailleurs, mais de ce que les impôts que le peuple paye. Mais nous payons, chaque année, on paye les impôts. Mais ces impôts font quoi? C'est seulement, est-ce que vous voulez que...
Donc ça veut dire que vous proposez que l'argent
de l'impôt... Parfois, quand je parle de ce pays ici, ça m'énerve.
Non, mais justement, on a parlé de la solution.
C'est ça.
Quelle que soit la médiocrité, quelle que soit la mégestion de nos autorités, en tout cas, que chacun revienne à la normale. Monsieur, je dis, et grâce à la radio Capi, que peut-être certains, grâce à la radio, nous remercions beaucoup la radio Capi parce que c'est une radio qui réunit tout le monde et même si les gens ne comprennent pas, mais quand même, à travers la radio Capi, on sensibilise et on parle des choses.
D'accord. Merci à vous. Merci. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Jeudi.
On vous écoute.
Bon. Jeudi, Kabila a son temps, là, avec Bukangalonzo, qui a voulu, avec les machines, produire plus les têtes. Mais ça n'a pas marché. Récemment, je viens de voir aussi la femme de monsieur Vidal Kamere, il fait aussi la même chose. Maintenant, la grande question que nous devrions peut-être que je vais poser, pourquoi est-ce que les entrepreneurs qui investissent dans ces domaines ici n'arrivent pas à avancer, à pérenniser leurs activités, ne serait-ce que pour sur les plans de la production? Parce que, et puis, on ne sait pas voir l'engouement dans ces secteurs là-haut, et pourtant dans d'autres sièges, l'alimentaire, c'est le secteur où beaucoup de gens plantent et produisent dans le domaine agricole. Et il y a des ceux-là qui investissent ici aussi dans la domaine, dans le domaine de la transformation. Certains produits ou manufacturés que nous consommons, surtout que nous importons. Et puis, vous savez que ne serait-ce que nos produits locaux, nos fruits, nos légumes, nos poissons, des trucs comme ça, c'est ce que nous devions normalement consommer. Mais comme il n'y a pas... La tendance même, on sait trouver ça dans les marchés, mais la tendance même, c'est de ne pas consommer ces produits-là, de consommer ce qui est importé ou ce qui est élevé, cultivé ailleurs. Pourquoi nous n'avons pas tendance à consommer nos propres légumes, nos propres fruits qui des fois pourrissent, des trucs, surtout aussi essayer de voir comment transformer ce que nous disposons déjà.
Merci, maître. D'accord, merci, maître Gaston. On va prendre les derniers intervenants, Patient de Lubumbashi. Bonjour. Patient, bonjour.
Oui, bonjour, cher animateur. Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement? Oh, il n'est plus là, Patient. Désolé, Patient est parti. Eh bien, Madame Kétia, vous avez la parole.
On voit que ça énerve tout le monde. La situation de la RDC énerve tout le monde, mais c'est normal. Je viens d'expliquer tout à l'heure.
Ouais.
Le monsieur qui disait, vous lui avez posé la question, quelles sont les solutions qu'il propose? Il n'a pas pu expliquer.
Il n'a pas donné
voilà.
De solution.
La solution, c'est comme j'ai dit, comme c'est le secteur agricole, c'est le ministre de l'Agriculture qui doit organiser ce secteur. Et j'ai donné des solutions. Je disais, la première chose à faire en tant que ministre de l'Agriculture, c'est d'abord d'identifier qui sont les agriculteurs. À tous les niveaux, on ne parle pas de kin, on vous parle des villages, des territoires, des agglomérations, on vous parle de toute la République. Mmh. Qui sont les agriculteurs? La deuxième des choses, les former. C'est comme il a dit.
Les organiser.
Non, d'abord la formation. D'accord. Parce qu'il a dit, il y a des agriculteurs qui utilisent encore la houe jusqu'aujourd'hui.
Ah oui.
Donc, les former, quand on parle de la formation, c'est de les faire comprendre qu'on ne produit plus pour, en raison de survie. Qu'on va produire en raison d'industrialiser notre secteur. En raison de produire à grande échelle pour non seulement consommer localement, et aussi l'exportation. Ça, c'est la formation. Et la troisième chose, les outiller. Vous comprenez? Mmh. Les outiller et ensuite financer ceux qui sont dans la transformation pour l'installation des usines de transformation. Donc, parce qu'ils travaillent en collaboration. Mmh. Parce que je peux être dans la transformation, mais si je n'arrive pas à identifier qui peut fournir le manioc.
Donc,
qui peut fournir?
Certains sont dans la production,
oui.
D'autres dans la transformation, si. D'autres dans les transports.
L'emploi et la distribution.
Distribution.
Voilà. Et nous avons nos consommateurs.
Oui.
Donc c'est toute cette chaîne-là, en tant que ministre de l'Agriculture, vous devez organiser. Et c'est comme je dis, je vous parlais du travail de fond. Arrêtons d'être dans la distraction. Toutes les voyages que nous faisons là, on n'aura pas la solution de l'extérieur. La solution, c'est chez nous, en République démocratique du Congo. Si moi, Madame Kétia Olangi, j'ai pu initier le projet Toulimi Pamoja en partenariat avec les femmes entrepreneurs du Congo, nous avons pu réaliser, même si c'est pas à grande échelle, nous avons pu réaliser plus ou moins, nous réalisons 16 tonnes, nous produisons 16 tonnes de farine de manioc de première qualité.
Et avec un investissement de combien?
$15,000. $15,000, mon frère.
$15,000.
Et ces machines sont fabriquées ici en RDC. Parce que je suis dans la promotion de Made in Congo. Je suis congolaise de sang. Je suis congolaise de père et de mère. Le Congo, c'est mon pays. Donc, je n'irai nulle part ailleurs que si je ne contribue pas, je veux contribuer où?
Des machines de qualité fabriquées.
Fabriquées par un Congolais. Son adresse, c'est à la 4e rue, Limité Industriel. Okay. C'est lui qui a fabriqué ces machines-là.
Et ils sont Agrimac. Plusieurs comme ça, plusieurs
voilà.
Comme ça qui peuvent
voilà. Des... Identifier d'abord c'est les fournisseurs de machines ici au Congo. Pourquoi on doit aller en Chine? Nous avons des ingénieurs congolais qui peuvent monter des machines ici en RDC. D'abord les identifier, identifier des producteurs et ensuite nous qui sommes dans la transformation. Mais c'est ça le problème. Comment organiser ça? C'est ça le travail d'un ministre, mon frère. C'est ça.
Est-ce que vous avez déjà approché le ministère de l'Agriculture, Madame Kétia? Bien, on va accueillir Jonathan Ndembandaka. Jonathan, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, par rapport toutefois, je tiens à vous féliciter et puis m'avoir associé dans les thématiques du jour. En tout cas, pour la relance de l'agriculture et de la production locale, c'est un élément important qui sera la fierté de notre pays. Vous avez remarqué, on faisait une marche en arrière, on regardait dans des périodes anciennes, ce sont les trois secteurs primaires, l'agriculture fait partie des normes. Alors, en abandonnant l'agriculture, voilà aujourd'hui, les pays vivent en extérieur, dans le sens que non, tout ce qui est produit, tout ce qui est ceci, c'est là, ça provient d'ailleurs. Mais maintenant, là, quand nous allons produire localement, en tout cas, ça sera du bien. Et puis, nous qui avons l'habitude d'aller acheter, les gens viendront ici, et puis, notre pays seront situés parmi les pays. Donc, le pays a fait un bon choix.
Alors, quelle est votre proposition pour industrialiser le secteur agricole?
En tout cas, la proposition est que les pays d'abord puissent prendre la conscience et la considération et de voir que dans l'agriculture, c'est un secteur important qui sera au moins ajouté quelque chose dans notre économie. Et aussi que les pays, ou soit les agriculteurs, pensent à la production. Mais donc on fait la production, nous allons détruire aussi l'environnement. Il faut tenir aussi compte de la production en tenant compte du respect de l'environnement. On ne peut pas détruire qu'à produire, mais il faudra aussi tenir compte dans cet aspect-là.
Bien, merci Jonathan. Madame Kitia, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jonathan?
Oui, c'est comme j'ai dit, Monsieur Jonathan a raison. Il parle du secteur primaire. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la priorité des priorités,
c'est l'agriculture.
Et nous pouvons bien l'organiser. On a cette capacité-là. Je pense que c'est juste le manque de volonté politique.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui s'intéressent à l'agribusiness?
Justement, ils s'intéressent à l'agribusiness parce qu'on ne trouve pas nos comptes. Moi, je vous dis, je suis dans l'agriculture. Nous souffrons.
Quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent?
La première des choses, c'est comme je dis, identifier tous ces producteurs.
Ouais.
On ne sait pas où les trouver. C'est vrai qu'on a identifié ces femmes avec qui nous travaillons, mais il y a des fois où nous n'avons pas assez de production. Donc ça nous prend du temps pour trouver quel producteur à tel niveau. C'est comme je dis, on ne sait pas qui fait quoi. Donc c'est déjà un challenge pour nous. Le deuxième challenge, ce sont les taxes. On n'accompagne pas les entrepreneurs quand les taxes sont trop chères. Et vous vous rendez compte que vous dépensez et vous ne gagnez pas assez parce que les taxes sont trop chères. Et troisièmement, on n'a pas l'accompagnement du gouvernement.
Il n'y a pas d'exonération.
Et troisièmement, c'est l'accompagnement du gouvernement. Si le gouvernement peut nous accompagner, non seulement en réduisant les taxes, mais aussi des terres. Parce que vous savez, acheter des terres, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je peux être entrepreneur. Je dois encore louer des terres pour la production. Ce n'est pas facile. Donc il faut.
Des hectares, hein.
Des hectares. Oui, ce sont des hectares. C'est des millions de dollars. Alors, si le gouvernement, la meilleure façon de faire des choses, c'est que le gouvernement, s'il doit accompagner les entrepreneurs, c'est premièrement, surtout en agribusiness, c'est d'abord de nous faciliter la tâche d'avoir les terres. Même s'ils ne donnent pas ça, gratuitement, mais s'ils peuvent nous céder ces terres pour 10 ans, pour 20 ans, pourvu qu'on produise, et qu'on ait plus cette dépendance alimentaire. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Le gouvernement gagne parce qu'on va payer les taxes à moindre prix.
À moindre frais,
voilà. Mm-hmm. Et nous produisons pour la nation, nous n'aurons plus la dépendance alimentaire. Et troisièmement, nous pouvons aussi exporter.
Et on va réduire l'importation. On importe beaucoup dans notre pays.
Voilà.
Bien, Madame Kétia Olangui, entrepreneur et coordonnatrice de la Fondation NEMA, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, Monsieur Jody.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Mais avant de terminer, Madame Kétia, avant de terminer, quel message vous pouvez lancer à tous les entrepreneurs qui vous écoutent en ce moment?
Ok.
Et qui ont des projets surtout, qui veulent investir dans ces domaines agricoles.
Alors, je voudrais annoncer aux entrepreneurs congolais que j'organise la 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs du 30 au 31 mars. Et cette fois-ci, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix sur la Côte d'Ivoire? Ça me permet, en tant que Congolaise, nous, en tant que Congolaise, de, si je peux dire, de laver cette image de la République démocratique du Congo sur la plateforme internationale. Parce que c'est vrai, nous avons des problèmes chez nous, mais nous devons aussi montrer le côté positif de notre pays. Parce que tous les pays ont des problèmes. Mais la RDC, vraiment, est présentée sous une forme d'un pays
où il y a trop de problèmes.
Il y a trop de problèmes.
Alors qu'il y a aussi des choses qui marchent.
Et on n'a pas des producteurs. Nous sommes là. Et nous avons la volonté. Ouais. Et ce que nous faisons déjà, nous pouvons déjà l'exposer. Et attirer les investisseurs chez l'Union européenne démocratique du Congo. Donc, j'exhorte les entrepreneurs à venir nombreux participer à cette 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs. Qui s'éteindra à Abidjan du 30 au 31 mars 2023.
Bien, merci et à la prochaine, mesdames et messieurs. C'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Marcel Ngombo a assuré la coordination et la réalisation. Dieudonné Nyangacha était à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Keshama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.